Bonsoir, bienvenue sur Radio Campus 88.3 dans... je pense que nous avons un petit problème. Moi, je n'ai pas entendu mon ami Pinson, mais il était pourtant présent. Est-ce que tu veux bien parler ? Et non, effectivement, je ne t'entends pas, mon ami. Excusez-nous pour ce petit retard. Ce soir, nous allons parler de monde ouvert, mais le direct, c'est aussi des soucis techniques. Je ne t'entends toujours pas. Essaye le micro rouge, peut-être. Je crois que j'ai compris une... Eh bien, ce que je vous propose, c'est que nous allons un peu bousculer les idées reçues et nous allons commencer par écouter une musique. Et nous allons commencer avec les Beatles, All You Need Is Love, parce que nous avons besoin de nous faire pardonner pour ce petit problème technique, mais nous revenons tout de suite après. Merci.
Merci.
Bienvenue dans Double Saut. Moi, je t'entends parfaitement, Pinson.
Et moi, tu m'as coupé mon retour, cher ami, en fait.
Alors, je ne sais pas comment j'ai fait ça.
Les poteurs que tu as touchés sur la droite, au-dessus de mon micro à moi, en fait. Je t'entends pas, du coup.
J'ai touché à rien.
On est désolé, mesdames et messieurs, ça arrive.
Je suis désolé, ça est les soucis du direct. Moi, je t'entends parfaitement. Il va venir vérifier, je vais lancer le sujet. Je suis parfaitement désolé. Alors que Nintendo et les annonces chez Nintendo sont de plus en plus fréquentes sur le fait que le prochain Mario sera en monde ouvert, on ne peut que se demander si les codes du jeu vidéo ont glissé ces dernières années pour faire que les premières tentatives de novatrices qu'ont été les mondes ouverts il y a maintenant 15 ans, aujourd'hui c'est une formule éculée, il y en a partout, tout le temps, il y a une vraie surcharge du marché sur cette question, toutes les grosses productions, c'est devenu l'alpha et l'oméga du jeu vidéo. Et pourtant, elle est de plus en plus critiquée. C'est la plupart des formules peinent à se renouveler. Et on voit les nouveaux jeux qui se lancent. Arrivent à nous convaincre. Et donc, on ne peut que se demander si des jeux comme Elden Ring et Breath of the Wild, en fait, n'ont pas rendu les mondes ouverts complètement obsolètes. Et donc, pour cette question, on est vraiment désolé de commencer l'émission comme cela, mais... Non. Je ne sais pas du tout. On est désolé, mais voilà, on va parler des mondes ouverts, on va finir par y arriver. Excusez-nous, c'est aussi nos premières heures à la radio. Ce qui est bizarre, c'est que moi, j'arrive à entendre Pinson parfaitement. Il est bien présent, il est là, ce n'est pas un mensonge. Et donc...
En fait, je t'explique, il y a un faux contact sur mon casque. C'est ok. Désolé, entre les micros, les casques, je ne vais plus bouger. Voilà. Là, si je bouge plus, je suis dans cette position, tout va bien. Bonsoir, rebonsoir. Donc, très belle introduction, mon Amir. Moi, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi pour toi un bon monde ouvert ?
Alors, j'ai fait une liste, justement, parce que vous le savez, j'aime faire des listes. Et donc, un bon monde ouvert, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, moi, je le résume en 4 points, qui sont effectivement 5 points. Et oui, les listes, c'est précis.
Mais ça augmente.
Pour moi, déjà, les missions secondaires. Je dois trouver plaisir à faire des choses qui sont autre chose que la quête principale. Deuxième chose, évidemment, je pense, une des choses essentielles pour beaucoup de gens, l'exploration. On doit avoir plaisir à se balader dans ce monde, à vouloir en voir les contours, les endroits cachés. Après, j'ai notre place dans ce monde. Quelle place a notre personnage à l'intérieur de ce monde ? Et parce que ça, c'est ce qui permet de cette immersion et qui peut rendre le monde vivant. Et enfin, la musique. Pour moi, le sound design, ça fait partie de l'immersion et c'est ça... qu'on retient à l'intérieur d'un monde ouvert, je trouve. Et voilà, c'était ma liste, Pinson. Tu me demandes, je fais des listes, moi, ouais, j'ai bien. Pas de souci avec ça.
Et moi aussi, j'ai fait des listes. Bon, après, je me suis basé sur les différentes définitions que j'ai pu trouver. Et les points que tu cites sont dans les 5 que j'ai aussi. Donc, il faut comprendre, un open world, il y en a eu depuis longtemps, mais voilà, le gros pilier de ce qui se fait maintenant, c'est la liberté. Donc tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux, sans vraiment grande restriction pour l'exploration. Donc l'exploration se lie à la liberté. Le choix que ce soit dans la genèse de ton personnage, dans son évolution, donc on pense bien gentil avec Red Dead, et dans des narrations non linéaires, donc tes échanges avec les personnages non joueurs, vont dépendre de ce que tu as envie de faire dans ta partie. C'est donc non linéaire. Il se rappelle qu'il fait mettre un bed. J'adore. La vie, c'est large, mais la vie des personnages non joueurs, justement, est-ce qu'ils sont bien écrits ? Est-ce qu'ils sont juste là pour dire bonjour, comment vous allez ? Ou alors est-ce qu'il y a une vraie construction ? Je vais reciter Red Dead, on pense à ces personnages qui apparaissent de nulle part pour dire hey, aidez-moi, et en fait ils te tendent un piège, ou généralement il faut accompagner une dame qui s'est fait tabasser. Voilà, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait des animaux, il faut qu'il y ait de la faune, de la flore, et tu parlais de quêtes, il faut des activités et qu'elles soient variées. Si t'as des quêtes annexes, mais que tes quêtes annexes c'est genre que des quêtes FedEx, tu vas finir par détester les quêtes annexes. Et donc, comme tu disais, de l'immersion, en fait, tout ce que je viens de précédemment citer, ça nourrit à cette immersion ou à sentir que voilà, tu t'es dans le monde, quoi. T'es pas spectateur, tu vis, quoi. T'as ta propre expérience. Donc, dans l'ensemble, ça se résume pas mal à ce que tu as décrit. Je disais juste avant que les mondes ouverts tels qu'on les entend maintenant, c'est sous ces grands piliers. Mais individuellement, il y a des jeux qui ont déjà tenté d'apporter de la liberté ou d'apporter du choix. En 1974, il y avait déjà un jeu multijoueur dans l'espace où on pouvait se balader dans cet environnement 3D. Donc, c'est il y a très très longtemps. Ultima, la série des Ultima et Ultima 4, c'était pareil, le choix de se déplacer dans les villes, d'avoir des actions qu'on décide, des quêtes qu'on choisit, voilà, cette évolution. Et puis bah, après, The Legend of Zelda en 86, GTA en 97, et puis Fable qui commence aussi à mélanger choix, liberté, un peu moins d'immersion parce que les personnages étaient un peu plus pataux, mais dans l'ensemble, voilà, il y avait déjà des ébauches. Pour toi, on arrive au pic de ce qu'est l'open world maintenant, avec quel jeu ?
C'est compliqué parce que je pense que c'est vraiment par étapes. Il y a forcément des jeux qui représentent ce pic, mais en fait, comme chaque jeu s'enrichit quand même de la concurrence, des autres jeux, de ce qui fait l'époque, je dirais qu'on a dans un premier temps la trilogie des GTA, celle de PS2, arrive Assassin's Creed, et puis vraiment ce qui est au sommet de cette pyramide de ce moment, ce qui pose un pic de ce que peut être un monde ouvert, c'est Skyrim. Et on est obligé de préciser qu'on n'a pas joué à Skyrim en le disant.
Oui, j'ai l'impression qu'on le dit une émission sur deux.
En fait,
c'est marrant.
Vous pouvez nous blâmer pour tout ce qui se passe, hein, les soucis techniques, mais je crois que notre plus grand blâme est là.
C'est clair.
Par contre, on le sait, hein, on sait qu'il, voilà, on connaît les codes qu'il a définis. Enfin, hélas, on peut parler d'un livre sans l'avoir lu, et on peut faire pareil avec un jeu. Et donc, voilà, pour moi c'est ça qui pose les bases.
Et donc GTA, Assassin's Creed et Skyrim en bout, quoi.
Voilà, celui qui est à ce moment-là l'apogée de tout ce qu'ont pu proposer les mondes ouverts avant. Et pour moi, jusqu'à Breath of the Wild et Elden Ring, la formule va pas se renouveler.
Oui, non, c'est sûr. Mais en fait, je réfléchissais, et ce qui est marrant, c'est que tu as cité trois jeux qui n'ont, si tu réfléchis sur le papier, rien à voir, parce qu'on a de l'heroic fantasy, on a de l'action aventure historique, avec des grandes guillemets historiques, et on a GTA qui est GTA. Et y a, ben, si tu réfléchis, c'est, effectivement, c'est l'apogée, et en même temps, on est sur trois concepts quand même complètement différents, quoi.
Mais en termes du jeu, du contenu, mais en termes de game design, on est sur des philosophies qui sont plus proches. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que justement, il y a vraiment cette distinction entre le game design et la structure narrative, ce qu'on veut raconter avec son jeu, dans quel univers on veut se placer. Mais qu'on peut avoir, voilà, on peut faire de l'action dans des mondes plus couloirs, comme dans des mondes ouverts, et c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est comment les gens qui ont une histoire à raconter par le jeu vidéo, comment le game design en fait va faire pour raconter cette histoire au mieux.
Alors sur le design, on reviendra un peu plus tard sur les éléments techniques et nous ce qu'on a pu voir en tant que joueurs de toute manière. Moi, j'aimerais qu'on parle de après ce pic, du coup, de après l'Assassin's Creed, après Skyrim, en fait, de ce que moi j'avais appelé la casualisation, ce que tu n'avais pas aimé et ce que je comprends. Donc, le côté mainstream, en fait. je trouve que l'open world, suite à ça, c'est devenu un argument marketing. C'est venez jouer à mon jeu, vous allez voir, c'est open world, on peut faire ce qu'on veut, youpi. Et bah, tu te retrouves, toi tu me parlais de Forspoken juste avant là, mais pour moi Far Cry, on en a déjà parlé, Far Cry, une fois que t'as fait le 2, t'as tout fait quoi. Et c'est ce remplissage automatique quoi, mais on se sent obligé de faire un open world. C'est vrai que Forspoken c'est un bon exemple, parce que les mecs sont sentis obligés de faire un open world, et en plus tu vois un peu au graphisme, tu dis ok, les mecs ils avaient envie de je t'ai dit quoi, de marcher sur les airs comme Sanji dans One Piece, et ils ont justifié ça par bon on va quand même faire un open world pour qu'ils puissent faire un peu ce qu'on veut. Résultat, les gens se font chier. Hogwarts Legacy, j'avais dit que c'était un jeu d'ambiance. Effectivement, une fois que t'as passé te balader dans Poudlard et te balader à balai un peu partout, le reste de Poudlard c'est vide, et les quêtes annexes et les activités, on se fait un peu chier. Et voilà, c'était faut qu'on fasse un open world pour que en fait. Et ça commence à me déranger en fait, moi, cette sauce. Tiens, je vais mettre ma sauce open world sur mon plat. Et ça va faire un bon jeu.
Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, il y a une contrainte qu'on est obligé de dire, c'est que dans un monde capitaliste, aujourd'hui, faire un jeu AAA, c'est plus la même chose qu'il y a 15 ans. En termes de budget, donc c'est déjà pour ça qu'on voit beaucoup plus de franchises et qu'on en verra. Parce qu'à partir du moment où on a trouvé quelque chose qui fonctionne, les investisseurs, ils ont du mal à aller vers quelque chose n'existe pas. Et vous voyez par exemple le cas Cyberpunk, c'est intéressant parce que ça fait que ben il y a des investisseurs qui disent ben, ils auraient mieux fait de faire Witcher 4, parce que est-ce qu'on va faire un Cyberpunk 2? Mais bon, on voit peut-être qu'il y a eu un engouement derrière le jeu, depuis il y a quand même une fanbase solide, mais vous voyez, faire une nouvelle franchise c'est toujours un risque, alors que faire une franchise qu'on connaît, on est sûr, parce que c'est l'époque, cette espèce de nostalgie perpétuelle et permanente où on a l'impression qu'on a envie de voir constamment les mêmes choses. Enfin, c'est le sujet sûrement d'une autre émission, mais tout ça pour dire que dans cette question des open world et pourquoi on va là-dedans, c'est parce que quand on sait que quelque chose fonctionne, aujourd'hui on a du mal à prendre des risques. Et c'est, je crois, aussi pour ça qu'à côté de ça, le jeu indépendant explose depuis maintenant 15 ans, tout simplement parce que eux ont la liberté de prendre des risques. Et cette liberté que ne prend plus EA, ou là je crois, enfin moi personnellement j'ai pas joué à Starfield, mais de tout ce que j'ai vu de Starfield, je n'ai aucune envie, mais vraiment genre, je comprends que des gens aient envie d'en jouer, moi je suis pas hyper espace et tout ça, ça me passe un peu au-dessus, donc, mais si c'est pas pour l'espace, je veux dire, ce que propose le gameplay de ce jeu, bah moi ça me donne plus envie de jouer à Skyrim, en fait de tout ce que j'ai vu, ça m'a plus donné envie de me dire tiens, c'est peut-être le moment de te faire Skyrim.
Ou No Man's Sky, en fait. Moi, ça m'a donné presque envie de jouer à No Man's Sky en voyant Starfield.
Mais voilà, oui, mais No Man's Sky, c'est un exemple intéressant, même si c'est pas un monde ouvert. C'est vraiment aussi maintenant, il y a des jeux. Non, mais parce que c'est la même chose que Cyberpunk, dans le sens où il y a des jeux qui se rachètent auprès des gens. Mm-hmm. Je veux dire, parce qu'on peut faire des mises à jour, parce qu'aujourd'hui, un jeu, quand il sort, n'est pas le même jeu qu'il était il y a.
Enfin, qu'il sera dans deux ans.
Voilà, je ne sais même plus conjuguer depuis les problèmes d'antenne, mesdames et messieurs. C'est une catastrophe. Je régresse à vue d'œil.
C'est beau, hein, Amir qui panique.
C'est magnifique. Mais non, mais parce qu'il y a un exemple. Est-ce que tu connais l'histoire de Final Fantasy XIV?
Nine.
C'est une sacrée histoire. Le jeu est sorti une première fois, là, le MMORPG. D'accord? Avec une histoire, des personnages et tout. Ça n'a pas fonctionné.
Ils ont tout détruit.
Et ils ont
dans le lore.
Et ils ont rebuild un nouveau jeu. Je veux dire, aujourd'hui, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jouent à Final Fantasy XIV, qui n'ont probablement jamais joué au premier Final Fantasy XIV. Ils peuvent rencontrer un type un jour et discuter. L'autre n'a jamais joué au nouveau. Tu vois, c'est assez drôle. Mmh. Et en fait, ils parlent du même jeu. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est un peu. Tout à l'heure, je parlais du Starfield. Ça se trouve, en fait, dans 5 ans, il sera super bien. Et c'est ça qui est un peu difficile à estimer, je trouve, aujourd'hui, quand un jeu sort, parce que à part Nintendo, plus personne, voilà, ne fait que les jeux sont un peu infinis.
Oui, c'est vrai qu'en fait, t'écoutes musique ou alors tu vas au cinéma, le film, il changera pas, quoi. Ou à moins qu'il y ait une director's cut un peu plus tard, alors que là, un jeu, effectivement, tu peux y jouer dès sa sortie, dire bon, ok, et en fait, un an après, t'y retournes et ça peut te surprendre, quoi.
Et le monde ouvert mainstream, pour moi, il est aussi là. Parce que c'est des jeux qu'on peut mettre à jour s'ils fonctionnent, on peut fidéliser une fanbase, on peut vendre des petites pièces pour XP ses niveaux, big up Ubisoft, big up EA, un jeu couloir, une fois qu'il est fini, il est fini. Un jeu open world, c'est quelque chose où si on a investi, bah voilà, la capitalisation derrière, elle est plus simple.
Ouais, après, t'es pas obligé d'avoir un open world pour faire des mises à jour et changer ton contenu, et ça, c'est pas... Tu pourrais avoir... Enfin, t'as des roguelikes où...
Non, mais on parle de grosses productions.
Oui, bien sûr, on parle de grosses productions.
On peut pas imaginer un roguelike... C'est pas mainstream, le roguelike. Il y a des éléments de roguelike qui sont devenus mainstream, comme plein de trucs, mais... Bon.
C'est vrai que c'est moins accessible. De toute façon, l'open world, encore une fois, ça reste l'accessibilité. Et puis, c'est surtout... Maintenant, on arrive à une époque où on a tous au moins joué à un open world. Et donc, en tant que joueur, de près ou de loin, gros joueur ou petit, bah, t'es moins effrayé, entre guillemets, sur le côté nouveauté, quoi. Tu sais que t'as déjà joué à un open world, tu sais que c'est un open world, et ben potentiellement, tu te dis, allez, let's go, quoi. Et je pense que c'est aussi cet aspect marketing de se dire, bon, bah voilà, on fait justement un open world pour que les gens se disent, c'est un open world, tranquille. Mais on voit bien que ça ne marche pas tout le temps. On sent le déclin. On voit que là, les dernières productions, Forspoken, Far Cry 6, voilà, on sent la lassitude des joueurs. Est-ce que l'open world, ce ne serait pas les films de super-héros du cinéma, quoi ? Genre, ça commence à bien faire.
Bah, c'est-à-dire que c'est la formule. En fait, je crois vraiment que c'est la formule. C'est-à-dire que. Si on voit l'engouement derrière justement Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Elden Ring, c'est des open world, mais tout simplement parce que la formule a changé. Et il y a une formule qui, je pense, pour des joueurs qui ont joué beaucoup, beaucoup, il y a une formule qui plaît plus. Ou quand on se retrouve dans un open world où on voit déjà toutes les ficelles du jeu...
T'es pas surpris, quoi.
Non. Et puis, il y a une espèce de manque de créativité terrible parce que tu disais tout à l'heure, une fois qu'on t'a donné une grosse part du gâteau et qu'on t'a habitué à cette grosse part et que d'un coup, il faudrait revenir à une plus petite part, moins bonne, avec plus de sucre pour cacher le goût, ben, forcément, on est lassé. Et je pense que des jeux comme Forspoken, ils expriment en fait dans leur vente cette lassitude. Alors les gens, ils veulent plus voir un énième Far Cry, peu importe que ça soit avec de la magie ou... Et là, quand on voit les retours derrière Assassin's Creed, comme d'habitude... Assassin's Creed réussissent bien les villes, voilà.
Oui, bah pour l'aspect historique, oui, c'est leur plus. Tu vois, on parlait d'arguments de pourquoi le jeu. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un Assassin's Creed qui sort, ils mettent un tas de com sur « Viens, on fait des vidéos avec un historien, le mec il va réagir, on fait « Waouh, mais Bagdad, c'est trop beau !» Gros, j'ai vu 3 vidéos comme ça proposées par YouTube en mode « Un historien réagit à Bagdad, Assassin's Creed Mirage. » Et en fait, en te rappelant, j'ai déjà eu la même chose pour Odyssey, Origins aussi. Et à chaque fois, c'est leur argument de vente. « Regardez, c'était comme ça avant, c'est vachement bien fait, on te justifie alors la vie, de voilà, c'est cool, pour le coup c'est cool. » Mais après, le fait des jeux historiques et éducatifs, je sais pas, enfin... Dans le sens où, est-ce que ça justifie vraiment tout l'open world du jeu, de machin, de l'assassinat? Les gens attendaient vachement Mirage. Apparemment, Mirage, c'est une énième déception. On te promettait d'un retour en arrière plus orienté sur l'assassinat, des maps plus petites, mais plus concentrées. Du coup, plus vivantes. On fait un truc plus petit, mais c'est plus vivant. Et le retour jusqu'à présent, c'est quand même, ça penche un peu vers le négatif plus que vers le positif dans ce ras-le-bol continu, quoi.
Après, peut-être aussi, et là, moi, je sais pas s'il faut blâmer les développeurs. Hein, je crois vraiment qu'il y a une pression de l'industrie qui est de... Il faut faire la même chose parce que ça fonctionne.
C'est ça.
Et ça fonctionne, ça nous rapporte de l'argent. Et là, je vais pas citer un monde ouvert, mais CF Overwatch 2, quoi. C'est-à-dire, faites le même jeu.
Oui, mais voilà. Avec de l'argent.
Donc, c'est... Et, ça, c'est un vrai problème quand tu disais mainstream, casualité. C'est pour ça que j'aimais pas, parce que ça blâme soit les consommateurs,
soit les développeurs.
Alors qu'en fait, c'est vraiment une tendance philosophique de l'industrie qui est dans « faut faire méga de la thune ». Il y a plein d'entreprises qui ont viré des salariés dans le jeu vidéo, alors que c'est certes une année moins profitable que l'an dernier, mais extrêmement profitable. Et voilà, sauf qu'il faut... Voilà. On va pas refaire le monde, on va plutôt faire une petite pause en écoutant un peu de musique, parce que la musique, ça, ça adoucit quand même les mœurs, hein, oui. et je pense qu'elles ont besoin en ce moment d'être adoucies. Donc on va écouter, on va faire un bond dans le passé, un double saut en arrière, salto avant, en arrière. Et oui, mesdames et messieurs, il faut être technique dans la vie. 88.3 Radio Campus, nous écoutons Chance Holiday, Bury Me Deep. On se retrouve de l'autre côté, à tout à l'heure.
I'm a goner, yes sirree, they'll be coming after me. Well, of all of my kin, I'm the blackest sheep, so you'd better bury me deep. Gone and bury me deep. Brother, I'm a sinner and now I know. Bury me deep, brother, so I won't have too far to go. Well, I lied and I stole and I've cheated too. I've done every evil thing a man can do. A robber and a liar, he can get off cheap. But a killer, good Lord, you got to bury him deep. Bury me deep, brother, I'm a sinner and now I know. Bury me deep, brother, so I won't have too far to go. Woman, don't you carry on, find a good man when I'm gone. Ain't no use for you to wail and weep. We'll buy a black tombstone and bury me deep. Bury me deep. Brother, I'm a sinner and now I know. Bury me deep. Brother, so I won't have too far to go. Stack my bones in a little old heap and dig a big hole and bury me deep. Bury me deep. Bury me deep. Bury me deep. Bury me deep.
Bury me deep.
Bury me deep.
.3, c'est double saut.
Vous êtes toujours sur Radio Campus. Et tout de suite, on va aborder pourquoi et comment on arrive à avoir de bons open world à travers le design. C'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, créent voilà, ce sentiment d'immersion et la vie dans le jeu. Très naturellement, le premier point que j'ai noté, c'était le cycle jour-nuit. On ne se rend pas compte à quel point c'est super important, juste que dans le jeu, il fasse jour et nuit, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des animaux différents dehors, que les PNJ rentrent chez eux, aillent se coucher. Là, le monde existe, c'est le sentiment de temporalité dans le monde, et du coup que le monde avance, qu'il y a une forme de boucle, voilà, cette immersion. Qu'il soit aussi dynamique. Dynamique, ça peut être plein de choses, mais je parlais d'animaux. Mais si votre jeu y génère des loups et des biches, et ben quand tu te balades, c'est quand même sympa de voir un loup attaquer une biche. Enfin, sympa, je me comprends, mais...
C'est super sympa.
Voilà. En tant que joueur, tu fais « Waouh, c'est cool, le monde vit !»
Chouette, une biche en moins.
Chouette, non, ça dépend, tu joues à Red Dead, dans tous les cas, tu te dis « Bon, j'irai prendre sa peau. »
Nous devons vous avouer, chers auditeurs, que Pinson fait partie du comité contre les biches.
Le CCB.
Exactement.
Mais voilà, donc ça nourrit. Tu te balades et tu sais que le monde vit sans toi d'une certaine manière. Et ça, que si t'étais pas là, ça vit quand même. Et ben ça nourrit aussi ce sentiment d'exister dans le monde. C'est assez bizarre comme sentiment.
C'est l'immersion, mais ça pour moi vraiment, hein, parce qu'on parle de Breath of the Wild, on parle d'Elden Ring, ouais, comme les formules qui sont venues bousculer le monde ouvert. Et c'est vrai, hein, je dirais que là je prenais un air un peu cynique, mais c'est vrai. Mais par contre, je crois vraiment que l'expérience proposée par Red Dead Redemption 2, cette expérience d'immersion totale dans un monde où on n'est pas l'élu, déjà d'une, on est juste un type On n'est même pas le chef de notre bande, quoi. On est un second couteau. Et ça, je trouve que ça rend les choses vivantes. Et ce monde, il est vivant. C'est dans ce jeu où on va croiser des gens vraiment vivent leur vie. Il y a une narration environnementale prodigieuse. Il y a la vie du camp. Je veux dire, la vie du camp, c'est en soi presque un film. Dans le sens, alors pas comment c'est filmé, mais dans le sens, c'est une histoire, quoi. Chaque personnage a une histoire, il y a le temps qui passe, certains personnages luttent avec l'addiction.
Il y en a qui s'en vont, puis qui reviennent quelques jours après.
Et on est là. Et on est au milieu de tout ça. On trouve du plaisir à passer du temps dans notre camp. On trouve aussi du plaisir à s'arrêter au bord d'une rivière juste pour regarder le paysage. Et ça, cette expérience vraiment immersive, je trouve, moi, que ça a été une de mes plus belles expériences de joueur de jeux vidéo. Et tu vois, dans les mondes ouverts que j'ai fait après, ça, je ne l'ai pas ressenti. J'ai pris plein de plaisir. Mais par exemple, dans Zelda Tears of the Kingdom, je ne me sens pas totalement immergé dans ce monde. Mais ça tient du principe que je suis l'élu. Et donc tout le monde m'attend, tout le monde me reconnaît, je le sais déjà. Alors, j'y prends du plaisir, hein, c'est le but, c'est pas de dire il faut casser la formule
c'est
de Zelda.
C'est moins immersif.
Personnellement.
Voilà. Non, mais c'est moins immersif à travers des éléments de gameplay. Comme tu le dis, choisir narrativement que tu es l'élu. Puis là, pour Tears of the Kingdom, en plus, être sur la même map que Breath of the Wild, tu n'auras pas l'effet waouh de la découverte, tu auras une forme d'effet waouh moins, sur qu'est-ce qui a changé dans le monde que tu connais déjà. Et ça trait à des points différents, en fait. C'est pas immersif pareil. Déjà, le sentiment de nouveauté fait que t'es plus dans j'observe tout partout, je me laisse imprégner du jeu, alors que quand tu connais déjà les lieux, puis en plus, comme tu le dis, que tout le monde sait que t'es l'élu, il y a une forme de déconnexion, quoi.
Mais on va peut-être recentrer le débat sur le design.
Donc, le dynamisme. Mais en fait, je voulais quand même revenir sur Red Dead. Donc, tu nous as fait une très belle description de ton immersion à toi dans Red Dead et voilà, passer du temps au camp. Pour prouver la liberté d'un open world comme ça, il y a des gens qui ont préféré passer leur temps à attacher des gens et les traîner avec leurs chevaux. Et ils s'amusaient tout autant.
Mais je l'ai fait plein de fois aussi. Et en fait, ce que je faisais, c'est que... Non, je ne vais pas le raconter à l'antenne.
Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Les gens, vous les respectez.
Peace and love.
Sauf si dans Red Dead, ils vous parlent mal. Là, vous pouvez descendre de votre chemin et mettre une petite patate.
On a tous envie de voir un cerf à la fin de notre vie et pas un loup.
Voilà, exactement. La verticalité. Alors, pourquoi la verticalité dans un open world? Parce qu'il est très important qu'en fait, un open world, c'est bien si la map est grande et qu'on peut faire plein de choses. Mais si c'est plat... S'il n'y a pas une grotte dans laquelle vous pouvez vous enfoncer ou des bâtiments dans lesquels vous pouvez monter, des labyrinthes, des choses qui, à l'intérieur de ce monde, changent un peu, et ça me permet de transitionner sur la suite, des biomes. On parle d'un grand monde. Si vous traversez le monde en diagonale et que le seul truc que vous croisez, c'est des arbres, de l'herbe, et c'est tout, vous vous faites vite chier. On veut qu'il y ait, tu vois, dans Elden Ring, dès le début du jeu, si tu te balades 10 secondes, t'as déjà vu, tu t'es potentiellement téléporté en Kaelid. Si t'as bypass le boss, tu peux direct atteindre l'Ukrinia, je crois que c'est ça, le marais. Et ça n'a rien à voir, c'est pas tout les mêmes lieux,
surtout,
c'est des paysans.
Moi, mes premières heures de jeu, donc je me balade un peu là, comment ça s'appelle, là où on arrive, bref.
Nécrolimbe.
Justement, je prends le téléporteur vers la Kaelid et tout. Enfin, je constate un peu l'immensité, quoi, devant moi, de ces premières heures où on est là. Waouh! Sans compter que le jeu est très angoissant pour moi, la musique et tout. Et puis soudain, je trouve une petite stèle en pierre. Je peux rentrer dedans. Il y a un ascenseur, je le prends. Et là, on descend dans la Siofra, quoi. Parce que là encore, il y a un choix de game design et surtout de concept artistique qui est fou, c'est-à-dire un ciel étoilé sous terre. y a quelque chose presque de Lovecraftien, comme si on pénétrait chez les dieux anciens. Et bon, le gigantisme de toute façon de Miyazaki et des Souls, peut-être qu'un jour on pourra en parler parce qu'il a quelque chose. C'est du pur gothique dans le jeu vidéo.
Inspiré par Berserk.
C'est assez cool. Et donc, moi, ce passage-là, de me dire, attends, mais il y a un monde dans le monde.
La verticalité.
Et oui, voilà. Et justement, Tears of the Kingdom, avec... voilà,
on reprend totalement ça.
Ouais. Ils ont essayé d'avoir trois niveaux de verticalité. Je trouve que, en fait, ça fonctionne. Bon, je pense qu'on peut le dire, parce qu'on en a parlé, on attendait pas mal Tears of the Kingdom. Moi, je trouve que le jeu, il fonctionne. Je suis moins tranché que toi sur le fait qu'on soit à Hyrule, parce que je prends plaisir dans cette histoire à continuer ce que j'avais commencé. Ça me gêne pas. Mais pour moi, la révolution du jeu, elle est pas dans le monde ouvert, elle est pas dans ce qu'il propose. En fait, ça, c'est, je veux dire, ok, c'est Breath of the Wild amélioré. Je veux dire pourquoi amélioré, et après je vais plus vite. Juste par exemple, les tours. On dit dans les jeux, on fait toujours la même chose. Et dans Tears of the Kingdom, on fait toujours la même chose. On ouvre là, les tours d'observation. Seulement, chaque tour est différente. Chaque tour a un petit problème auquel il faut réfléchir, ne serait-ce que 2-3 minutes. Et c'est jamais le même. Et en fait, juste ce petit truc-là, ça c'est la force, je trouve. Et c'est déjà une force dans les noix Korogu. Ok, c'est tout le temps la même chose. Mais il y a 20, 30, 40 façons différentes de trouver une noix. Puis après, bon, ça boucle. Mais n'empêche que les premières fois, c'est jamais la même chose. Et ça... Pour toutes les petites quêtes comme ça secondaires de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, c'est toujours la même chose sans jamais être la même chose. Et ça, c'est une force. Il y a plein de jeux, les fameuses quêtes FedEx, et bon, va me chercher ça. Et donc là, c'est que ça soit un pot de mayonnaise ou un trophée, on s'en fiche. Oui. C'est pareil. Et donc, par contre, moi, ce que je trouve novateur dans le jeu, c'est la physique des objets. Je veux dire, l'amalgame, pour ceux qui ont joué au jeu, là, pour moi, tous les autres mondes ouverts, ils ont ouvert une brèche de liberté qui n'existait pas avant.
C'est ça.
Et là, pour moi, ça va être très très dur de me dire qui va pouvoir proposer un truc plus fou que ça. Parce que là, je veux dire, ils ont juste à sortir le prochain dans un nouveau monde et tout le monde est waouh, quoi.
Et hypé, ouais, parce que là, c'est nouveau monde avec déjà la même liberté d'action. Que ce soit, enfin, on parlait de la chimie pour Breath of the Wild dans nos premières émissions, mais là, en plus de ça, t'as tous les objets, tu peux mettre tous les objets avec, ils ont tous une utilité. Tout ce que tu as dans ton inventaire, tu peux le mixer avec ta... Enfin, mind-blowing, quoi. Là, oui, comme tu le dis, c'est un nouveau pan sur la liberté dans le jeu vidéo.
Pour moi, c'est une révolution de game design.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire que vraiment, là, Breath of the Wild, c'était une révolution de level design. C'est-à-dire comment on conçoit un monde. Mais Tears of the Kingdom, c'est une révolution de game design. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde ?
Ouais.
Il y a des gens, je veux dire, moi, les premiers jours où je jouais, tu vois un type qui fait un robot. Voilà.
Oui, ou les robots, voitures, enfin là, c'est...
Et moi, c'est sur cette note que je voudrais finir. Je crois que là, il y a eu deux stèles posées sur le level design qu'on a nommé, quoi. Comment être immergé dans un monde et surtout comment prendre plaisir à le découvrir, la verticalité.
Avant qu'on passe à la musique d'après, parce que j'ai vu où tu voulais en venir, en fait, dans les points, parce que je reviendrai dans la partie d'après, rapidement, il y a aussi la récompense d'exploration. On parle de Zelda, mais Zelda, à chaque fois que tu vas sur une montagne, bah, potentiellement, tu as un Korogu, tu as quelque chose qui récompense ta présence. Et c'est important dans les jeux, parce qu'on prône la liberté et l'exploration, mais si tu explores quelque part, que tu te retrouves dans une grotte, par exemple, et qu'il n'y a rien dedans, tu fais, bah, je suis venu là pour rien, c'est chiant, quoi. Donc il faut ces récompenses, je recite ce que tu disais avec Cyberpunk, quoi. Tu peux monter sur les immeubles, verticalité, mais arrivant en haut de l'immeuble, il n'y a rien. Et bah, t'étais déçu et ça t'a marqué, tu vois, pour prouver à quel point c'est important la récompense d'exploration. Et les structures linéaires, tu vois, Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, il y avait plein de manières d'aller à plein d'endroits. La montagne, t'es pas obligé juste de mettre un équipement pour grimper la paroi avec plus d'endurance. Tu peux te construire un bouclier roquette, tu peux te faire voler, tu peux te téléporter de la map au-dessus pour aller en volant là où tu veux aller. Comme la narration, il faut que les structures soient non linéaires. Il ne faut pas qu'il y ait un chemin qui dise « Ok, si tu veux aller à tel village, tu es obligé de prendre ce chemin, en fait. Si tu vas ailleurs, ce n'est pas possible. »
Mais ce qu'il ne faut pas, surtout, et on va peut-être finir là-dessus, parce qu'en fait, c'est une transition sur les mauvais comportements, ce qu'il ne faut pas, c'est faire croire qu'on a plusieurs choix quand on n'en a qu'un seul, parce que on sent, alors dans la philosophie pure, en fait, c'est ça que fait le jeu vidéo, mais c'est pas ça. Mais le coup, on peut la jouer discrète comme on peut la jouer bourrin. En fait, la jouer discrète, c'est se cacher derrière des caisses. Et la jouer bourrin, bah, c'est souvent ce qui marche le plus. Donc, faut assumer son côté. Parce que maintenant aussi, le problème de ce mainstream et du game design mainstream, c'est qu'on a tout. Aujourd'hui, les jeux, c'est des fourre-tout. Il y a du RPG, du choix multiple dans les arborescences. Mais au final,
plus de cœur, plus d'unicité, plus d'originalité.
Il y a deux fins ou trois, mais elles sont toutes un peu nulles. Et donc, voilà quoi. Non, arrêtez. On vous le demande ce soir dans Double Saut.
S'il vous plaît.
Messieurs les grands décideurs.
On va quand même jouer à vos jeux, même si vous n'avez pas tout mis dedans, en fait. Franchement, moi, quand je mange mon kebab, je demande peut-être pas complet plus avec 40 000 cheddar.
Si, moi, je rajoute du cheddar.
Ouais, mais pas en plus du chèvre et en plus de la sauce harissa. Et je fais de la pub pour les kebabs.
J'ai connu un kebab qui rajoutait de la feta.
Ouh. Anyway, on s'écoute Goliath de Woodkid, présent dans un très bon open world, enfin très bon Death Stranding, très bon à sa manière, et on se retrouve tout de suite.
Et on vous aime, 88.3 Radio Campus.
Thank you.
bonsoir, 88.3, c'est Double Saut.
Toujours sur Radio Campus. Whoop, whoop. Et donc, suite à tout ce qu'on vient de dire, on va aborder ce qu'on a appelé les mauvais comportements, en fait. Justement, vu que tout ça, c'est potentiellement que du marketing, et comme tu disais, il y a des jeux qui essayent de tout fourrer, et tu te retrouves avec de très bons exemples de pourquoi fallait pas faire ça. Tu vois, j'en avais un en tête en faisant l'émission. J'attendais beaucoup Halo Infinite, qu'on nous vendait comme le dernier Halo, hein, pseudo monde ouvert. On te montrait de l'herbe, des arbres, et qu'on pouvait faire du crapin et machin, on pouvait aller un peu partout où on voulait. Ouais, cool. En fait, il y a deux biomes. Il y a quand t'es dans une base ennemie et quand t'es dehors. Super. On te montre qu'il y a une zone plus tard que tu vas débloquer. Ce sera aussi de l'herbe. Et tu vois cet anneau de loin, parce que c'est quand même assez stylé. T'es en train de jouer le Master Chief, tu regardes devant, derrière, et tu vois cet anneau au loin. Tu te dis, mais l'anneau, là, il y a de la verdure partout. Je devrais pouvoir aller à pied, faire le tour. Non, mais tu joues tu joues à demi-cercle. Ou quart de cercle, en fait, tu joues au jeu quart de cercle. Tu peux vraiment, sur la taille de l'anneau, tu peux aller tellement sur pas grand-chose que forcément, t'es déçu, quoi. Quand tu commences les jeux, c'est trop bien, la sensation, elle est trop cool. Et puis, quand tu te rends compte qu'en fait, c'est tout ce que t'auras... Alors, je me rappelle du moment où je me suis rendu compte de c'est tout ce que j'aurais, et je me suis dit, je vais quand même le finir, je suis à 75% du jeu, mais c'est non, quoi. Je crois que je m'étais dit que je voulais le faire en légendaire et je l'ai même pas relancé tellement j'étais déçu.
Moi, j'y ai joué quelques minutes, mais quand j'ai vu des images, des tests, ça m'a complètement déprimé, quoi. Je me suis dit, waouh, ça faisait pas rêver. Mais sur les mauvais comportements, moi, j'en ai un que je veux qu'on arrête. J'achète mon jeu maintenant 70, 80 balles parfois. Oui, je m'en fiche de vos exemptions Super Gold à 120.
Tu veux qu'il soit fini?
Alors non, même pas, c'est pas ça que j'allais dire, mais oui, je souhaite qu'il soit fini, mais c'est surtout que je veux pas qu'il me vende des trucs à l'intérieur. Je veux pas passer de niveau plus vite, je veux jouer au jeu, je veux pouvoir passer de niveau de manière normale, c'est-à-dire équilibrée, en jouant à mon jeu, sans avoir à aller farmer 36 000 trucs. Et il y a plein de trucs comme ça, je veux pas de dollars en plus que je peux acheter avec ma propre thune. Et tout ça, en fait, ça m'agace, quoi.
Ça tue l'immersion, ça te ramène dans le vrai monde. Tu vois, parce que on n'en a pas vraiment parlé, mais faire une économie dans un open world, ça paraît presque la plupart du temps logique, et ça nourrit l'immersion. On a parlé dans des émissions précédentes du fait, Red Dead, en fonction de ce que tu chasses et où tu le revends, tu touches pas la même thune. C'est important pour l'immersion. Par contre, ce qui tue l'immersion, c'est quand on te rappelle le vrai monde. Hey, tu vois ton vrai argent sur ton vrai compte en banque. Utilise-la dans ce jeu pour être plus fort. Tu vois, ça te déconnecte instantanément.
Donc ça, c'est pour moi là, ça c'est vraiment c'est un carton rouge, quoi. À chaque fois que je vois qu'un jeu essaye de me vendre un truc, je lui dis basta. Je parle pas de l'extension d'une fois que t'as tout fini, est-ce que tu veux jouer un peu plus au jeu. Ça, c'est pas pareil. Je parle vraiment de toutes ces petites micro-transactions, en fait. Voilà, il existe un mot, je le dis, incroyable, la langue française, on est capable de s'exprimer. Et je le fais.
C'est fort. Dans la même direction, moi, c'est le remplissage dont j'en peux plus. On en a déjà parlé, mais je m'en sers souvent comme exemple parce qu'il y en a marre. Tu vois, toutes les activités qu'on te rajoute, où en fait, il faut juste amener ton personnage à un endroit, cliquer sur un bouton. Super, t'as activé ce truc, t'en as 49 autres activés dans ta partie. C'est non, en fait, stop. Surtout qu'en plus, on te dit ça, mais tu dis c'est pas grave, c'est des collectibles ou c'est des activables. Il y a probablement d'autres choses dans les activités. Et en fait, tu te balades et tu te rends compte que tu vas à un endroit, et là tu fais, je clique sur un bouton, et on dit bravo. Et là, il y en a 32.
Dans le Spider-Man là, d'Insomniac Games, celui de 2017. Il y a un truc, il faut attraper des pigeons. Et l'autre, il faut récupérer les sacs à dos de Peter. Sauf que Peter, il laisse ses sacs à dos partout. Et en fait, ça te déconnecte parce que Peter, c'est toi. Et tu te dis, pourquoi je suis aussi bête, quoi? Est-ce que je peux pas garder mon sac à dos sur moi?
Mais c'est quoi mon budget sac à dos?
Ouais, voilà, c'est ça. Comment ça se fait que je me suis acheté 150 sacs à dos? Donc, c'est vraiment qu'à la limite, quand le jeu te transforme de Peter en Spider-Man à un moment donné dans l'aventure, tu laisses ton sac à dos, puis qu'après il t'oblige à aller le rechercher. Là, c'est immersif. Tu vois, c'est cohérent, même si c'est peut-être pas fun. Mais aller chercher les 120 sacs à dos de Peter Parker, c'est pas fun, moi. Ça m'amuse pas, quoi.
J'aurais fini par me taper en sac à dos, quoi.
En fait, moi, je le fais pas.
Te taper ?
Non, ramasser ces trucs-là.
Ouais, c'est vrai que ça, bah, ça sert à rien, quoi.
Mais si tu te souviens de notre émission complétiste...
Le complétisme, c'est
si
exactement
écouté,
ce que j'ai... Oui.
Je ne suis pas un complétiste.
Et je suis bien d'accord. Et de toute façon, c'est un truc qui se perd, comme on disait. Donc voilà, il y a des... Donc le remplissage, en plus, ça touche plein de gens. Ça touche Far Cry, Assassin's Creed. On parlait de cyberpunk... donc qui faisait preuve de verticalité mais qui ne récompensait pas ton exploration. Non, moi ça c'est plus possible en fait. Moi en fait quand tu m'as dit ça, ça m'a coupé toute envie de jouer au jeu.
Non mais mec, dans le jeu il y a des voitures volantes mais faut un mode pour contrôler les voitures volantes. C'est-à-dire que ne mets pas de voitures volantes dans ton jeu, un jeu où t'es capable de voler des voitures si je peux pas voler une voiture volante.
Ah putain, j'ai pas vu venir, je le savais pas. Ah ouais, bon bah voilà, j'ai vraiment... Apparemment le jeu est bien en plus avec
mais
toutes
oui,
les mises
non,
à jour,
non,
il a
vraiment,
l'air Gucci
vraiment.
Mais...
C'est, en plus c'est même pas pour tirer sur cette ambulance parce que voilà, l'atmosphère est bien, c'est juste... je crois qu'ils ont visé trop loin, trop haut, et on parlait des scopes des jeux la dernière fois, ce qui fait un mauvais jeu. Mais en fait maintenant les grosses productions, elles investissent tellement d'argent dedans, comme tu l'as dit, elles veulent un fourre-tout. Et en fait non, réduisez vos scopes, et c'est peut-être là que je veux aller pour conclure. Tu réduis ton scope et tu fais un monde ouvert magnifique qui s'appelle Outer Wilds où tu peux finir ton jeu en 22 minutes et pourtant il te faut des heures et des heures pour te balader dedans et tu vis dans un monde où il n'y a personne à part des souvenirs et ce monde il est vivant.
Mm-hmm.
Non, il est plus vivant que
en fait,
la Reine d'Angleterre.
On rappelle quand même que la question de base c'est qu'est-ce que Elden Ring et Breath of the Wild ont fait pour que en fait on finisse par être dégoûté de tous ceux qui font moins bien ou moins ou qui essayent de faire trop par rapport à leur technicité et du coup ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, réfléchissez là, vous dites ok, bon, je prends Elden Ring et Breath of the Wild en compte, quel autre jeu peut apporter quelque chose, quoi, c'est quoi la suite, c'est quoi, comment tu vois, tu disais Tears of the Kingdom, c'est quoi après, comment ils vont faire, comment vont faire les concurrents. Et ben voilà, Outer Wilds, un jeu indépendant, arrive à faire quelque chose de différent et du coup qui à sa place à côté de ses grands noms quand même, mais vraiment à littéralement sa place à côté du nom d'Elden Ring et de Breath of the Wild, parce qu'il a apporté tellement quelque chose de nouveau qui fonctionne à tous les niveaux, que ce soit pour l'exploration, l'immersion, ne parlons pas de verticalité et de biome, on parle de planète et de voyage dans l'espace avec un moteur physique qui est, enfin voilà quoi, tout fonctionne et c'est un jeu indépendant et il est à la même étagère dans les GOTY quoi.
Oui.
Voilà, il est bon. Des jeux peuvent comme ça peuvent exister. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils existent à l'extérieur du spectre des AAA qui essayent d'utiliser tout ça pour faire une sauce open world avec un peu d'épices RPG qu'on met partout, qu'on fourre tout. Et ça ne marche pas, quoi. Et les mecs, ils arrivent à un studio indépendant, ils font ok, les gars, ça c'est notre jeu, ça fonctionne. Ayez des idées, en fait. Renouvelez-vous.
Mais. Est-ce que tu crois que les game designers qui pondent des Forspoken, ils jouent à leur jeu ?
Ah forcément, t'es obligé
non,
de tester.
Non mais pas pour le tester. Mais
ah. Et... Après ?
Alors peut-être que t'aimes pas jouer à ton jeu parce que comme t'aimes pas écouter tes chansons, c'est pas la question. Mais est-ce qu'ils joueraient à un jeu comme le leur ?
Ouais, c'est
vrai. Moi je crois qu'ils ont des cahiers des charges. Les mecs indépendants ont pas de cahiers des charges. Ils réfléchissent en termes de qu'est-ce qui est fun ?
Qu'est-ce que je veux voir dans mon jeu, en fait ? À quoi j'ai envie de jouer ?
Je suis pas sûr que dans les cahiers des charges d'EA, il y ait marqué fun quelque part quand ils commandent un jeu. Alors que pourtant, c'était ce que conseillait l'ami Miyamoto au game designer de chez Nintendo dans les années 80. C'est il faut qu'on s'amuse parce que ça s'appelle des jeux.
EA, c'est pas it's in the game, hein, c'est it's in my pocket. Thank you for the money.
Et c'est peut-être le moment de se quitter, bons amis.
C'est vrai, bah, en fait, oui, mais on était déjà bons amis après, on sera bons amis avant. Attends, non, j'ai mélangé les deux, mais tu restes mon ami, quoi.
Mais je parlais aussi à nos chers auditeurs.
Parce que si on conclut pas correctement, on n'est plus bons amis.
C'est évident.
Ouais, je connais pas les règles. Hein. Ok, bah restons bons amis, on vous embrasse. Encore merci de nous écouter. T'avais une petite dédicace à faire, je crois, avant qu'on se quitte.
Eh ben oui, on voulait remercier Enzo de nous écouter.
Ah,
nous
merci
aussi,
beaucoup.
On pense à toi et travaille bien à l'école.
C'est important.
C'est important, l'école, ça permet un jour de pouvoir parler devant des gens à la radio, par exemple. Et donc, on va s'écouter Funkadelic avec Baby, I Owe You Something Good, parce que, effectivement, les amis, dans ce monde parfois bien triste et noir, la musique est notre lanterne.
On se retrouve très vite, des bisous.
88.3 Radio Campus, double saut ASMR.
Bisous.
Ah!